devient un spectateur un peu agressif. Vous ne pensez pas que le cinéma a tout dit, tout fait, qu'il se répète? Alors d'habitude, je l'aurais un peu agressé, mais là, j'ai très souriant. Je pense que nous sommes des... Nous, les cinéastes, les filmeurs, les metteurs en scène, on est des primitifs. Comme ces petites églises romanes dans la campagne d'il y a 1000 ans.
Ah, ils vont se multiplier!
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le d'or.
Une all to vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
C'est lequel?
Una all to vous. Dark away now.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Non, le cinéma n'a pas tout dit, tout fait, tant qu'il restera des filmeurs comme lui pour garder, comme il dit, trace de la splendeur de la vie. Et ce filmeur est avec nous ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Quand je me lève, je suis une caméra. Cette caméra, ce sont mes yeux. Bonjour Alain Cavalier.
Bonjour.
Filmer, filmer ces moments du quotidien et soudain, dans l'accumulation d'images, la possibilité d'un film apparaît. Le voici, ce petit dernier né être vivant et le savoir. Mais comme rien ne se passe jamais comme on l'a imaginé, ce film, cette route va vous emmener ailleurs. Être vivant et le savoir, après avoir été présenté à Cannes en séance spéciale, sera révélé au public dans les salles mercredi prochain. Cannes, justement, nous commencerons par là. Cette incroyable sélection et cette palme qui nous ravit, Parasite. Enfin, les sorties de ce nouveau mercredi, c'est une petite semaine entre Joyce et Rocketman. C'est parti.
La Palme d'Or revient à...
Merci.
Alors, je suis vraiment très honorée, comme vous le savez tous, je suis toujours très inspirée par le cinéma français. Je tiens à remercier en fait les deux grands réalisateurs français qui sont Clouseau et Claude Chabrol.
Oui, Parasite de Bong Joon-ho, première Palme d'Or sud-coréenne de toute l'histoire du festival et qui tombe justement l'année du centenaire du cinéma sud-coréen. Belle concordance des temps pour un film, non pas parfait, ça n'existe pas, mais unique en ce qu'il réunit dans la même œuvre. L'humour noir, le suspense, la satire sociale et politique, le tout remarquablement filmé. Un film devant lequel on a peur, on rit, on réfléchit aussi, merveilleux. En revanche, Laurent, on est plus circonspect sur ce très grand prix remis à Mati Diop pour Atlantique.
Oui, on peut s'en réjouir pour elle. C'était un pari oui. De mettre à ce niveau-là de la sélection, c'est-à-dire en compétition, donc avec quelques aînés autour d'elle. Bon, est-ce que c'était pas un peu trop pour ce film qui est un beau geste de cinéma, avec vraiment effectivement une belle façon de mettre en scène notamment, mais quelques petits détails ou quelques petits aspects moins réussis comme ces zombies ultra présents et finalement assez peu justifiés au fond dans le film. Bref, on souhaite à Mati Diop une magnifique carrière, elle est encore à venir.
Un prix qui aurait pu être mérité par Céline Sciamma pour Portrait de la jeune fille en feu.
Par exemple, enfin en tout cas, elle l'aurait souhaité, manifestement, en rappelant qu'elle était certes scénariste à l'origine à la Fémis, mais que depuis sa carrière a beaucoup évolué vers la mise en scène, et c'est vrai que c'était un peu injuste, au fond, ce prix de uniquement un peu raccourci sur le scénario, et elle a bien fait notamment de mettre en avant ces deux interprètes féminines.
Prix du jury ex-aequo, Les Misérables de Lajli et Bacurao de Kleber Mendoza Filho et Juliano Dornelles. Tous les deux sont déjà ennuyés, embêtés par le gouvernement brésilien à qui, soi-disant, ils doivent de l'argent, mais c'est un motif politique en dessous puisque le film est un vrai brûlot. Il raconte, soi-disant, dans quelques années le Brésil, mais c'est déjà maintenant cette forme de dictature. Et enfin,
Films sont des brûlots, d'ailleurs.
Ouais.
Pardonnez-moi, c'est vraiment un prix très, très politique.
Et une drôle de mention spéciale pour Elia Souleymane, le cinéaste palestinien. Une mention spéciale un peu hors sol, remise au début du palmarès, comme si il en était exclu. Très, très curieux. Et puis, bien sûr, le très beau prix d'interprétation
Masculine.
Masculine.
On ne dira pas ça d'une interprétation féminine.
Enfin, Laurent, dans cette cérémonie de clôture cannoise, un moment suspendu avec l'acteur américano-danois Viggo Mortensen. Il s'exprime en français avant de remettre ce prix de la mise en scène. Alain Cavalier, nous voulions vous le faire écouter.
Bonsoir. Il y a 6 mois, grâce à la gentillesse de Rosalie Varda, j'ai eu une très belle expérience. Dans un vol de Marrakech à Paris, elle a changé de siège avec moi pour me laisser accompagner sa mère, Agnès Varda. On a beaucoup parlé, surtout du cinéma, bien sûr, mais aussi de nos enfants, du changement climatique, du recyclage, de la vie des oiseaux en hiver, enfin, de tout un peu. Je savais qu'elle était malade et je voyais qu'elle était un peu épuisée. Mais parler de nouveaux projets et de l'art de la mise en scène comme si elle avait tout le temps du monde. Vers la fin du vol, elle a dormi un peu. Je la regardais, prêtant l'oreille à sa douce respiration, et je pensais à une chose simple mais très importante qu'elle venait de me dire. Et c'était que pour bien raconter, pour faire du bon cinéma, il faut pas montrer. Il faut simplement donner l'envie de voir.
Alain Cavalier, ne pas montrer, donner envie de voir. Définition de Varda sur la mise en scène, ça vous inspire quoi?
Je crois qu'on peut dire ça quand on a fini le film. Mais quand on le fabrique, on ne se pose pas ces questions-là.
On se les pose après.
On vérifie après que on a bien regardé et on a un peu montré, quoi. Mais on est sûr de rien. Quand on le fait, le geste est automatique, immédiat. Et après, les plans, on les met les uns à côté des autres et on construit le film.
Agnès Varda était une glaneuse. Vous êtes un filmeur. Vous avez pas mal de points communs, finalement, tous les deux.
Oui. On est de la même génération.
Mmh. Non, mais en dehors de ça, vous filmez votre entourage, vos objets,
oui.
Votre quotidien.
Oui.
Vous aimez la récup, comme elle?
Je suis moins familier avec les choses qu'elle. Moi, c'est plus un tout petit peu plus ressassé. Elle est plus directe. Elle est une méridionale. Moi, je suis un bosseron. Voilà. C'est tout ce qu'on peut dire.
Tous les discours. Vous aimez les chats, quand même.
Et on aime les chats. Ouais. Ouais, mais ça.
Être vivant et le savoir. Votre dernier film, Alain Cavalier. D'ailleurs, on dit quoi? On dit dernier film ou nouveau film, c'est pas pareil.
Ça peut être le dernier, ça peut être l'avant-dernier. Mais en tout cas, c'est le dernier où je serai traversé par ce que j'ai filmé. Je ne peux plus maintenant.
Parce que...
C'est-à-dire que maintenant, je suis entré dans un moment de ma vie où je regarde sereinement les choses. Elles me passionnent de plus en plus. Et si je faisais un film, je prendrais quelques séquences, mais de... complètement musicale, complètement planante, pour faire un spectacle de pure détente et de pur divertissement. Alors, j'ai quelques plans déjà qui existent, que je vais mettre bout à bout, je vais mettre peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans, ou ne pas le terminer, mais c'est fini d'entrer dans les complications de vivre, de survivre, d'être content, pas content, d'être heureux, d'être malheureux, cette succession qui fait que on avance quand même, mais c'est coton, quoi.
À filmer comme vous le faites, le film commence quand?
Le film, là?
Oui, en général, vous...
D'une façon générale,
vous filmez beaucoup, et il émerge quand?
Le film avec Emmanuel, sur le livre d'Emmanuel, là, que...
Tout s'est bien passé.
C'est 30 ans. À ma rencontre avec elle, il commence à exister, ma rencontre avec elle. Alors, on est amis, on déjeune ensemble pendant 30 ans, on se vouvoie. On est de purs parisiens, c'est-à-dire qu'on déjeune et puis ça peut durer jusqu'à 2 heures, 3 heures, 4 heures, on n'est pas, On n'a pas de rendez-vous précis, on n'est pas des employés de bureau. Et on est très heureux de ça. Et un jour, elle me dit, mon père m'a demandé si il a été victime d'un AVC, si je peux pas l'aider, comme il peut pas se tuer lui-même, je peux pas l'aider à faire l'affaire, à en finir. Alors je dis, mais je sais pas, faites-le. Alors elle lui trouve une chose en Suisse, elle écrit un livre.
Vous dites, je ne sais pas, faites-le.
Hein?
Vous dites ça, oui, je ne sais pas, faites-le.
Oui, parce que j'avais à peu près l'âge de son père. Et si tout d'un coup, qui était en pleine forme, j'avais un AVC et que j'étais hémiplégique sur un lit, je me dirais, est-ce que ça vaut le coup de continuer dans cet état-là? Et comme j'ai le choix de partir ou de rester, ça m'appartient, hein. Alors elle écrit son livre, et comme elle est magnifique, elle écrit définitif tout de suite. C'est-à-dire, première page, c'est très peu revu jusqu'à la fin. Et elle m'envoyait ça comme un feuilleton pour que je l'encourage à continuer. Et surtout que c'était la première fois qu'elle parlait au jeu, à la première personne. Mmh. Et moi, j'étais entré en pratique du jeu cinématographique depuis un bout de temps. Mmh. Elle le finit. Le film a un certain...
Le livre
a un certain succès. Et un jour, je me dis, mais je ne l'ai jamais lu en continuité. Et je prends le train, je vais à Angers et je le lis en allant à Angers. Et je me dis, mais je vais tourner ce film. Je vais me faire une petite répétition générale, je vais faire l'hémiplégique. Hein, je vais prendre la place du père, et je vais demander à elle d'être elle-même.
Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, entendre cet extrait-là, oui. Justement.
Je m'entraîne un peu, voilà, je m'entraîne un petit peu à être hémiplégique. Ouais, déjà, il fourche d'ailleurs... Leurs mots, ils se trompent sur les mots, ils escamotent des verbes, ils trouvent des formules qu'ils répètent, enfin bref. Je suis hémiplégique du côté droit. Donc j'ai ma main gauche qui peut fonctionner encore. J'espère m'asseoir et je ne peux rien faire tout seul. C'est pour ça que... Et d'ailleurs, dans le livre de Manuel, ce qui est intéressant, c'est que il joue à la bourse, alors il a une zapette, et alors où il y a les émissions sur la bourse, et il zappe. Et puis, un jour, il l'a vu, il tenait la zapette à la main, il l'a acheté sur le lit. Il a dit, ça ne m'intéresse plus. Là, elle a su que il était prêt à partir et qu'elle pouvait l'aider. Alors moi, je tiendrai encore une caméra, ma main valide. Je pourrais me filmer Manuel, filmer ma fille. Hein? Et puis à un moment, j'étais sur le lit. Et je dirais, oh non, ça ne m'intéresse plus. Non.
C'est bizarre parce que vous avez mis le doigt sur entièrement le travail qu'on a fait avec Emmanuel. C'est qu'on a fait, on a travaillé, moi, j'étais comme son père, c'est-à-dire amateur d'art, ayant de l'argent et homosexuel. Et au bout d'un certain temps, je dis à Emmanuel, je ne suis pas comédien, est-ce que je vais sous vos yeux et singer votre père? Ça me semble un tout petit peu délicat. Alors je vous propose une chose, je reste dans la situation dramatique de votre père, mais je suis moi-même Alain Cavalier, c'est-à-dire je suis cinéaste. Elle m'a dit, merci, merci, merci. Parce que à l'idée de revivre tout ça avec vous et le film, c'était un peu un cauchemar pour moi. Alors ça l'a complètement... surtout qu'elle avait des rapports un peu conflictuels avec son père. Pour connaître Son père lui a demandé quand même un immense service, mais il ne l'a pas toujours très bien traité.
Au milieu de ce livre et de ce récit, il y a quand même au cœur de ça une mort annoncée. C'est la mort qui traverse, on peut dire, elle traverse votre œuvre quand même. Je ne sais pas si on peut se répondre à pas de message. Libéramé, Irène, Thérèse, avec cette idée-là de la choisir. Et c'est ça le point d'ancrage, non ?
De choisir Emmanuel ?
Choisir la mort.
Ah, de choisir la mort, mais oui, mais évidemment. Mais je l'ai choisi joyeusement. C'est-à-dire que comme une répétition générale, une façon de l'apprivoiser totalement à travers le film. Et lui-même allait pour boire la potion finale avec une joie, une libératrice. Et ce qui le, à chaque fois qu'il la voyait, il lui disait, écoute, ce que je dis est bien, hein, j'ai toute ma tête, hein. Parce que en Suisse, on leur demande d'avoir toute leur tête pour laisser eux-mêmes ouvrir. C'est eux qui doivent ouvrir l'entrée du produit, l'étal. Et sa panique, c'était qu'il devienne un peu baboule et que la loi suisse lui refuse, étant donné qu'il n'avait pas toute sa force mentale, l'autorisation de partir selon sa volonté claire et consciente.
Vous filmez des vanités, ce qu'on appelait des natures mortes dans ce film. C'est les primitifs italiens que vous avez évoqués, mais c'est plutôt la peinture, grande peinture classique européenne, avec ces deux motifs-là, les natures mortes, les vanités. Vous avez voulu faire ça ?
Non, c'est un pur hasard.
Hein. Je ne crois pas.
Ou alors c'est un hasard qui me dépasse.
Hein, oui, hein. Peut-être.
Les courges... le pourrissement des courges, les oiseaux blessés, etc., ouais. etc.
Les Christs démantelés, démembrés.
Les Christs démembrés. Ce sont des objets de ma vie courante et qui sont entrés dans le film parce que j'attendais qu'Emmanuel guérisse.
Alors justement, c'est ça. Tout d'un coup, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes habituellement d'ailleurs seul avec vos objets.
Je continue à tourner en attendant qu'elle guérisse.
Elle, c'est un contre-champ invisible.
Et en fait, tout ce que je filme est imprégné de elle malade, de
cette attente,
etc. Aussi. Et que tout ça finit par se mêler dans le film.
D'ailleurs, vous faites du cinéma pour pas connaître la fin, comme en général les cinéastes connaissent la fin. Mais là, ce qui est beau, c'est que c'est la vie qui vous donne la dramaturgie.
Entièrement. Et quand je faisais des films au début avec des scénarios, des acteurs, et que j'allais au studio, je me disais, mais ça ne ressemble pas exactement à la vie que je mène quotidiennement tous les jours. Il y a quelque chose il y a un décalage comme ça. Puis petit à petit, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution un jour pour que, entre la façon dont je vis, je me lève, je mange et je vois les gens. Et ce que je filme, qui est quand même, que ça se tienne un peu la main dans la main.
Vous annonciez donc elle vous annonce qu'elle est malade. On va écouter cet extrait, qui est d'ailleurs la bande-annonce du film, où vous l'avez au téléphone.
Alors, ils ne vous ont pas dit si vous faisiez une chimio ou pas ? À la fin du mois. C'est un petit incident de parcours qui est mais pas une seconde. Pas une seconde, et je vois pas pourquoi on s'inquiéterait. Hein ? Qu'on tourne maintenant ou qu'on tourne dans quelques mois, quelle est la différence ? Moi, je serai un autre dans 3 ou 4 mois, je ferai pas le même film. C'est tout ce que je peux dire, hein? Mais c'est tout. Et vous non plus, c'est ça qui est merveilleux. On fera le film avec ce qu'on est au moment où on tournera, hein? Voilà. Bon, écoutez, mademoiselle Bernheim, hein? Que la grâce descende sur vous. Voilà. Voilà. Hein? Tout est bien. Voilà. Eh bien, à tout de suite. À tout de suite.
Pardon pour cette énorme question, mais est-ce que vous filmez pour empêcher aussi les êtres de disparaître ?
Je pense, évidemment. Évidemment, parce que même je m'amuse, moi. J'ai maintenant presque 30 ans de tournage presque quotidien. Et de temps en temps, je voudrais savoir ce que j'ai fait il y a 25 ans, au mois de juillet. je vais prendre, là, à cette époque, c'était des cassettes, et tout d'un coup, le passé revient avec une fraîcheur absolument magnifique, comme si j'y étais. Et en plus de ça, il a le charme de d'avoir été vécu, et pas de la même façon. C'est-à-dire que quand on le vivait, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais avec le temps, c'est un délice. On était magnifique, on était heureux, on était jeune, on était marrant. Et ça, ça fait plaisir, quoi.
Ce titre, Être vivant et le savoir, a déjà été mentionné dans l'un de vos films.
Oui.
Et dans la bouche de Catherine Deneuve.
Absolument.
C'est notre réalisatrice qui l'a retrouvé.
Bravo à elle.
La Chamade, 1960.
Vous l'avez retrouvé?
Oui.
Non. Oh, au
bistrot. Il y a déjà quelques temps que c'est l'oisiveté qui engendre toutes nos vertus les plus supportables. Contemplation, égalité d'humeur, paresse, laisser les gens tranquilles, bonne digestion mentale et physique. La sagesse de concentrer son attention sur les plaisirs de la chair. Manger, évacuer, forniquer, lézarder au soleil. Il n'y a rien de mieux, rien qui puisse se comparer à cela, rien d'autre en ce monde que vivre le peu de temps qui nous est accordé. Respirer, être vivant et le savoir. William Faulkner, monsieur. Voilà, quant à moi, ma décision est prise, vous n'avez plus qu'à méditer là-dessus.
Alain Cavalier, c'est quand même fou, hein. C'était en 68, William Faulkner, Les Palmiers Sauvages, Contemplation, Paresse, Bonne Digestion. Comment il est revenu, ce titre, à vous?
Comme ça, un matin, pouf, hein, je me lève de bonne heure, et puis je me fais un bon café, j'écoute de la musique, et je laisse monter, et tout d'un coup, je vois Catherine au café, comme si j'y étais, hein, comme si je le tournais. C'était rue Lascaz, c'est une petite rue du... elle était délicieuse, délicieuse. Et elle sortait d'un endroit où elle était petite main dans une réserve, dans un journal, dans un sous-sol, puis il y avait une espèce de voiture qui était là, qui envoyait des gaz par le... et puis elle a eu marre, elle a quitté son boulot, et puis elle a lu ce texte en arrivant à son café avant de monter chez elle.
Quoi. Vous parlez de quelle Catherine? La Catherine du film?
La Catherine du film. Monsieur...
Vous l'avez revu, le film, à cette occasion?
Non, je ne revois pas mes films.
C'est bien la raison pour laquelle vous posez les questions.
Oui, je ne revois pas. Mais par contre, en 68, j'ai demandé à Catherine Deneuve si elle voulait m'accompagner à la République pour une manifestation. La manifestation en 68, à Place de la République. On a pris le métro à Trocadéro, près de chez elle. Elle avait des lunettes. Personne ne l'a reconnue dans le métro. On a passé 10 minutes, là, au milieu de la foule, et puis je l'ai raccompagnée chez elle. Je suis très fier qu'on ait fait ça tous les deux. Et ça, hein?
Ça quoi?
Ça pétait?
Ça secouait?
Ça secouait très, très notoirement, hein. Ouais.
Dans le supplément du film, du DVD, vous avez remonté uniquement les plans avec elle.
Oui, ça c'est un jeu, c'est-à-dire que elle, virgule, seule.
Oui.
Et en 10 minutes, je n'ai pris que les plans de Catherine dans le film. Et l'histoire est parfaitement racontée en 10 minutes. Alors je me suis posé des problèmes sur l'heure 40 que j'avais passé à la raconter, avec les hommes autour, les circonstances, etc., etc., et que c'est parfaitement clair.
C'est assez cruel pour les longs métrages.
Oui, c'est cruel pour moi.
C'est impressionnant de filmer une beauté aussi fascinante que celle de Deneuve.
Écoutez, elle était jeune, elle avait 24 ans. Alors, elle avait déjà un sens merveilleux de la parure, c'est-à-dire qu'elle arrivait le matin de bonne heure, il y avait la cérémonie des cheveux, la cérémonie du maquillage, mais elle avait 24 ans. Et elle avait 24 ans, et elle avait une sûreté de voix et d'intelligence et de sentiments. Je ne lui ai jamais rien dit. Ni plus vite, ni moins vite, ni plus triste, ni moins triste, etc., etc. C'était à chaque fois une musique parfaite, rapide, sans musicalité exagérée. Elle ne faisait pas de retape sur le spectateur. Elle était divine.
Vous étiez à Cannes, Alain Cavalier, et lui aussi, l'autre Alain Delon, qui recevait une palme d'or d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. En 64, il a 30 ans et a déjà tourné dans Plein Soleil, Rocco, Le Guépard, L'Éclipse, Et il va produire votre deuxième film après Le Combat dans l'île, qui est L'Insoumis. Mais il ne s'en souvient pas très bien, Delon, au micro de Laura Adler.
Mais je voudrais qu'on parle de L'Insoumis d'Alain Cavalier.
Je m'en souviens plus, c'est très loin ça. Mais
ça parle de la guerre d'Algérie et c'est quand même un film que vous avez produit.
C'est le premier film que j'ai produit. Dites-moi, rappelez-moi en quelle année.
Je me souviens plus.
Bon, 66 ou 5, je ne sais plus. Oui.
Oui.
Oui, et puis le film a été un moment...
64.
Le film a été censuré, hein, à cause de, je ne sais plus ce qui se passait à l'époque.
Bah, des problèmes politiques et de ce que ça disait dans le film.
Oui, oui, c'est ça. Mais ça, c'est bon, demandez trop depuis... Depuis 50 ans, depuis 45 ans.
J'ai besoin de 200 000 pour la combine du bateau. Et 100 000 quand j'aurai la terre sous les pieds. À 150, tu as le bateau.
Non.
J'ai vu Vasquez. Alger-Luxembourg, aller simple pour un légionnaire mouillé et déserteur.
Personne ne saura rien.
Moi, je vous dis que ça fait 300 000 dans n'importe quelle agence de voyage.
250 000.
On est combien dans l'affaire ?
Trois.
Le troisième, qui c'est ? Civil, militaire ?
Ah, civil, pied noir.
Donc celui-là, Jean Fana, hein ? Vous l'avez gratis. Comme je suppose que vous ne travaillez pas pour le profit, vous non plus, ça vous reviendra à 300. Tout compris.
Tu es salaud, Thomas.
Mon lieutenant, je suis sérieux. Discipliné. Courageux, bon tireur. J'aime mon pays et ma mère, et j'ai besoin de repos. Tout ça vaut très exactement 300 000 francs de nos jours.
Alain Cavalier, vous n'aimez pas revoir vos films, mais ça va, les écouter, ça va, réécouter le...
Bah, c'est tout ce que je pense de... ce que je pensais à l'époque, c'est-à-dire que... Ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est...
Vous n'entendez que l'artificiel.
C'est très différent, c'est-à-dire que vous êtes devant une présence érotique magnifique.
Animal, oui.
En fait, c'est ça que vous êtes chargé d'illustrer, vous, cinéaste. Mmh. Hein? Et de mettre en valeur. Et ce que vous pouvez raconter, l'histoire, etc., etc., ce qui compte dans la salle, c'est cet échange physique. Hein? C'est-à-dire que il paye peu d'argent et ils font l'amour avec une personne pratiquement parfaite, quoi, qui dégage énormément. Et moi, je tiens une maison de plaisir, en fait. Hein? Je tiens un crack assez somptueux parce que... mais c'est vrai, ils le savent. Les actrices à Hollywood qui repeuplaient la Terre, qui aidaient à repeupler la Terre, se réunissaient quelquefois au café en prenant le thé et elles savaient très bien ce qu'elles faisaient. Hein? Alors, Alain, il était magnifique. Il connaissait le cadre, la vitesse de la sortie. C'était extraordinaire, la science qu'il avait du rythme à l'intérieur d'un cadre, d'une sortie de chant. Il sortait du chant aussi bien qu'un chat. C'est pas peu dire.
Non.
C'est pas peu dire, hein. Mais, finalement, si j'avais fait ça toute ma vie, je n'aboutissais qu'à une impasse.
Alors, Delon, c'est un homme cinéma. Et vous êtes un homme caméra. Vous voyez, vous avez tout en un. Lui comme acteur et vous comme...
Ça vient d'une époque où on croyait que dans une narration, il y avait une place idéale de la caméra pour bien raconter aux gens. Hein, mmh. Et c'était la place de Dieu. Pratiquement, c'était une idée... Et puis petit à petit... Quand j'ai bien réfléchi, et quand petit à petit aussi les caméras ont baissé un petit peu, et que ça a été finalement le prolongement de votre main, donc de votre pensée, on s'est dit, mais le cinéma, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la vision d'un homme, d'une personne. C'est pas une idée, c'est pas... Et la caméra permet maintenant, sans argent, avec une technique parfaite, d'enregistrer immédiatement l'émotion que vous avez dans la vie.
Au point d'arriver, vous savez, oui, tout à l'heure, on a écouté l'extrait au téléphone, il fait l'objet de la bande-annonce. Et quand vous téléphonez, il y a un plan fixe sur un rouleau de scotch.
Mais c'est parce que je décide de téléphoner à...
Emmanuel.
À Emmanuel Bernheim, pour avoir de ses nouvelles. Et puis, je pose ma caméra sur et je me dis, bah, je vais peut-être enregistrer ma conversation avec elle. Et puis, je n'y pense pas. Et tout en lui parlant, je m'aperçois que ma caméra, je l'ai pas branchée. Je la branche, mais je ne cadre pas.
Oui.
Je ne tourne pas pour un film, pour illustrer un scénario, pour faire marcher une... Je tourne simplement parce que ça m'intéresse sur le moment.
Oui, en vous parlant de ça, c'est-à-dire que vous vous en fichez de la belle image.
Non, mais en tout cas, je sais que moi, j'ai une façon de regarder et qu'il faut que je lui fasse confiance à cette façon de regarder. Quand j'entre dans une pièce, je vais m'installer à un endroit où je pourrais filmer. Donc j'ai toujours un rapport avec l'espace très précis. Et filmer, c'est la même chose. C'est être bien soi-même devant quelque chose qui est intéressant à filmer, qui vous intéresse.
Et puis il y a la voix, bien sûr. Au-dessus de tout ça.
Alors, il y a la voix qui rentre, puisqu'il y a le regard, il y a la voix, il y a la main qui peut rentrer, il y a le visage qui peut rentrer dans un reflet. Il y a mille combinaisons qui sont plus riches que simplement le cinéma objectif qui filme des acteurs qui expriment des sentiments devant une caméra. Je trouve ça plus riche comme ensemble, comme à votre disposition, comme couleur à votre disposition.
Après, il y a le montage. Étape très importante.
Bah oui, parce que
capital.
Comme vous n'exécutez pas un projet, dramatiquement très bien construit, il faut que vous trouviez à l'intérieur de la vie une bonne construction. Et ça arrive.
Oui.
Ça arrive. Et moi qui ai été élevé, je veux dire, sincèrement, à la construction, complètement, depuis Échille jusqu'à... Donc, je suis très préoccupé par ça. Et j'y passe un temps fou.
Une année?
Mais Emmanuel Bernet m'a téléphoné pour me dire qu'elle était malade en janvier 2016.
Oui.
On est quand même en 2019.
Oui.
Alors, il y a une maturation. J'ai monté d'autres films pendant ce temps-là, mes portraits, etc. Je me suis distrait. Mais il y a, on n'est pas aux pièces. Je suis pas. Je devais tourner entre midi et 7h30 au studio. Les acteurs aussi. Aujourd'hui, on me dirait tu vas travailler demain. Je travaille quand je peux travailler et quand la vie me propose quelque chose d'intéressant à fabriquer. C'est insensé la façon dont on a assuré et de bons films ont été faits pendant 100 ans. Hein, avec la férule du temps, de l'argent, des producteurs et des acteurs, parce que c'est une violence, un acteur qui est très très connu. C'est un cadeau et une violence. C'est cher, si c'est cher, votre liberté, etc., etc.
On va conclure sur ce film « Être vivant, le savoir ». Je vous ai demandé de lire un texte du livre d'Emmanuel Bernheim, Être vivant et le savoir. Son livre s'appelle Tout s'est bien passé.
Attendez, je vais essayer. Voilà, c'est que je trouve que les lettres aptissent un peu dans les journaux. Hein. Alors, j'ouvre le frigidaire sur la première tablette à la hauteur de mes sens, de mes yeux. Il y a le reste du sandwich de mon père. Je ne peux pas le garder. Même au frais, il va rancir, moisir. Le saumon sentira fort. Allez, je le jette. J'appuie sur la pédale de la poubelle. Le couvercle se soulève. À travers le fin plastique luisant, je découvre alors, découpé dans la mie brune, l'empreinte en demi-lune des mâchoires de mon père. Mon bras s'immobilise. Au-dessous, le trou sombre des les ordures. Je ne peux pas. Mon pied quitte la pédale. Le couvercle retombe. Un bang sourd qui résonne dans l'appartement désert. Je reste là sans bouger, le sandwich à la main. Et si je le mettais au congélateur, il se conserverait. Je le range, bien à plat. sur une boîte de glace vanille. Et voilà. Didn't I do it for you? Why don't I do it for you? Why won't you do it for me? When all I do is for you. They wanna see us alone. They wanna see us apart. They wanna see us alone. They wanna see us apart. And I just want to feel your love. And I don't want to have to share our love. I try, but I get overwhelmed.
D'évoquer les sorties, Laurent se souvient de lui. François Veillargance est mort cette semaine à 77 ans, l'âge limite pour lire Tintin. C'était l'une des inspirations avec les évangiles de cet écrivain facétieux, drôle, très érudit, exquis et pervers à la fois, académicien. Veillargance était aussi réalisateur et grand cinéphile. Je l'avais reçu l'été 2006 sur France Inter pour évoquer ses habitudes de spectateur de cinéma.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de constater quand on a vu un film important, quand on sort, il y a un moment de, que je pourrais appeler pompeusement, de déréalisation, où on est encore dans l'univers du film. Et tout à coup, on regarde le spectacle de la rue à la façon d'Ingmar Bergman, ou à la façon de Fellini, ou à la façon de Billy Wilder. Et alors, ça dure pas très longtemps. Ça s'estompe vite. Ça peut durer 3 minutes, 4 minutes, 6 minutes. Si on est avec quelqu'un, c'est foutu parce que l'autre vous dit tout de suite, est-ce que t'as aimé le film? Alors, c'est quand on va voir un film à plusieurs, si on pouvait apprendre à se taire pendant les 3 minutes qui suivent la projection, ce serait bien. Mais non, tout de suite, on vous dit t'as aimé, ou bien moi j'ai pas, oh, ça m'a ennuyé, ou je sais pas quoi. Alors, aller au cinéma tout seul, c'est peut-être mieux. Non, ce qui est agréable, c'est de regarder quelqu'un qui regarde un film. Ça me plaît beaucoup.
Ah!
Enfin, il faut être amoureux, évidemment, dans ce cas-là.
Ou mais... amoureux, ou d'autres liens, d'ailleurs, non?
Non, moi, j'ai jamais essayé dans d'autres circonstances. Mais peut-être, oui, peut-être. Mais pour regarder quelqu'un que vous aimez, qui est en train de regarder un film, moi, personnellement, c'est une situation de voyeurisme qui m'enchante.
Et regarder quelqu'un que vous aimez, qui aime un film que vous aimez, vous?
Non, ça, c'est plus angoissant, parce que, à ce moment-là, si vous avez peur qu'elle n'aime pas le film... Par exemple, j'emmène une personne, une femme, voir La Règle du jeu.
Bonsoir, madame la Bruyère. Bonsoir, petit Jacqueline. Dis-moi, avant de te coucher, je voulais te demander, qu'est-ce que c'est là que tu étudies, ton art précolombien?
C'est l'étude de la civilisation américaine avant l'arrivée de Christophe Colomb.
Ah oui, des histoires de nègres.
Mais non, madame, il n'y avait pas encore de nègres en Amérique.
Ça, mais qu'est-ce qu'il y avait alors?
Mais des Indiens.
Évidemment, je suis bête. Depuis Halloween.
Et tout à coup, je me dis, c'est peut-être pas si bien que ça, je vais trouver ça bien, etc. Alors, tout à coup, je trouve le film pas très bon. Et au bout d'une demi-heure, elle me dit, on ferait mieux de rentrer faire l'amour. Et donc, on a quitté la salle.
Ouais. Pour moi, ça peut être un motif de quitter quelqu'un. Si
vous non, attends, dans l'anecdote que je viens de vous citer, il n'y a aucune raison de quitter quelqu'un qui vous propose d'aller dans une chambre.
Ça dépend à quelle hauteur vous placez le cinéma dans votre vie.
Oh, ben, en dessous de la chambre.
François Veillargans, vous l'avez filmé, François Veillargans, Alain Cavalier.
Oui, j'ai fait un portrait de 50 minutes de Philippe Labro qui enregistre, qui fait. Moi, je mets des années à faire des portraits. Et avec lui, j'ai mis qu'une journée, mais lui, il en faisait 3, 4 dans l'après-midi, ouais. De 30 minutes chacun, et sans coupe.
Ouais. Hein,
et filmé sans coupe. Et il y avait Veillargans.
Ouais.
Et après, j'ai filmé Philippe disant, lui, c'est un hélice. Hein, lui, c'est une merveille. Lui, c'est une merveille. Et on lui posait une question et sur... mais vous êtes un tout petit peu là, déshabillé hein, dans votre livre. Il dit, mais comment voulez-vous que je parle avec quelqu'un? Et vraiment, si je ne suis pas tout nu, c'était... Voilà.
Les sorties de la semaine, on va commencer, Laurent, par Le Fils, le premier long-métrage documentaire d'un certain Alexander Abatourov. Il nous plonge dans l'univers clos des futurs Spetsnaz, unité d'élite de l'armée russe, sur les pas de son cousin Dima, la vie et les étapes de formation. Et parallèlement, il va voir sa famille parce que ce garçon a disparu.
Ben oui, c'est-à-dire tout l'intérêt de ce premier documentaire, c'est justement dans cet entrecroisement de deux récits. Vous le disiez, donc, la description d'une unité d'élite russe, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une unité très très sérieuse en termes militaires. Et puis, parallèlement, effectivement, l'évocation de ce cousin de 21 ans qui est mort au combat, donc qui était un soldat, qui est mort au combat dans au Daghestan. Abatourov filme d'une part cette élite militaire en quelque sorte, et puis le gouffre, le deuil fondamental qui a envahi cette famille après la mort de ce jeune homme, en posant toutes les questions afférentes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ces jeunes gens qu'on envoie à la mort, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est que ces, comment est-ce qu'ils deviennent aussi quelque part un peu ces machines à tuer, parce que c'est ce que nous montre le film. Alors, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas d'encouragement à penser ceci ou cela, il n'y a pas de commentaire, mais très honnêtement, c'est un très très beau portrait à la fois effectivement d'une chose militaire comme ça, mais pas du tout sacralisée, et puis surtout d'un deuil familial abyssal.
De l'autre côté du spectre, Rocketman de Dexter Fletcher, qui raconte la vie hors du commun d'Elton John depuis ses premiers succès jusqu'à sa consécration internationale. Autant la bio de Freddie Mercury est sortie cette année, Bohemian Rhapsody était politiquement correcte, notamment sur son homosexualité, mais quand même réjouissante, autant celle-là, pourtant contrôlée de A jusqu'à Z par Elton John, ne censure ni les pratiques sexuelles, ni la consommation de drogue et d'alcool. Pour autant, cela en fait-il un bon film? Ça, c'est une autre histoire. Rocketman raconte depuis sa prime enfance une mère peu aimante, un père ultra autoritaire et très absent, l'ascension de Reginald Dwight, un garçon devenu la star complètement extraverti qu'on connaît. Le film plutôt fantaisiste mélange les époques, il mêle les rêves et les cauchemars de ce petit génie musical en quête toute sa vie, et le film le montre bien de l'amour de sa maman. Malgré cette fantaisie, le biopic comédie musicale n'innove pas beaucoup dans le genre, reste le plaisir d'écouter ses morceaux, bien sûr, interprétés et chantés par l'acteur très talentueux Taron Egerton. Joyce de Martin Ziegler, c'est une jeune fille mélancolique, une belle jeune femme, Laurent. Tout le film tourne autour d'elle.
Oui, c'est le portrait de Joyce, effectivement. C'est le 7e film de Martin Ziegler, qui est producteur, scénariste, réalisateur, chef opérateur et monteur. Ce sont un palmarès que ne renierait pas Alain Cavalier, hein, c'est-à-dire cette façon de faire effectivement presque tout soi-même pour un film très complet, pour un film en noir et blanc, pour un film aussi où on entend, et c'est beau, du Bach comme du Pergolèse, et c'est très cinématographique, très esthétique, mais qui n'est jamais abscon, qui reste au plus près de ce très très beau portrait de femme.
Et on va terminer par une reprise de Comencini, Qui a tué le chat, avec Ugo Tognazzi et Michel Galabru.
Petite merveille de 1977, tout simplement parce que ça raconte la façon dont deux propriétaires veulent à tout prix lourder les habitants de l'immeuble qui leur appartient. Et croyez-moi, c'est affreux, sale et méchant au possible. Et comme le savait en tout cas le cinéma italien des années 70.
Un festival à Pantin, le festival de court-métrage, très bon festival.
Oui, du 5 au 15 juin au Ciné 104 à Pantin. Ça s'appelle Côté Court, comme chaque année. Il y a 10 jurys, il y a une compétition de fiction, des essais d'art vidéo, il y a un 74 films en panorama, des focus sur le Portugal, sur Pascal Rambert, des programmations jeunes publics. Bref, si on aime le cinéma et le court-métrage, c'est à Pantin qu'il faudra aller du 5 au 15 juin.
Des cadeaux pour Alain Cavalier.
Oui, on commence par positif.
Oui, allez,
peut-être, allez.
Par revue positive qui vient de sortir toute fraîche avec un article sur votre film, Alain Cavalier.
Bon, c'est le 700e numéro de cette revue. Il faut lire les revues de cinéma en général parce qu'elles ne se portent pas si bien que ça et pourtant elles font un beau travail sur le cinéma. Voilà, c'est dit. Deux films pour vous, Alain Cavalier. D'une part, un documentaire Le Grand Bal de Laetitia Carton. Ça a été, vient d'être édité chez Pyramide Vidéo. C'est On achève bien les chevaux, version joyeuse et gaie. Je ne sais pas si vous connaissez. Absolument. C'est extraordinaire. 7 jours, 7 nuits, 2000 personnes qui ne cessent de danser dans un bonheur absolu. Et puis, cette petite pépite retrouvée, La Salamandre, Alain Tanner, avec Bulogier, évidemment. C'est un film extraordinaire des années 70.
Bulogier fabrique des saucisses.
Oui.
Ouvrière, ouvrière suisse, absolument. Et Tanner la filme aussi bien que vous filmiez Catherine Deneuve en son temps, c'est dire.
Juste un mot pour dire que votre film Être vivant et le savoir sort mercredi prochain. Vous me disiez pendant le disque, en fait, c'est l'histoire d'un type qui raconte comment on fait un film.
Aussi, oui, aussi.
Et le type, c'est vous.
Voilà.
Merci.
Et bravo.
Merci
pour
beaucoup.
Ce film.
On se retrouve la semaine prochaine et on vous laisse, Alain Cavalier, les clés du générique de fin.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et un filmeur. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantès a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Hugo Combes s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Céline Illa. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Alain Cavalier, j'y étais.